Et nous accueillons Gabriel. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir.
Merci de nous appeler ce soir.
Ah, c'est moi qui vous remercie parce que j'espère de vous des conseils, des recettes. Voilà, je suis mère d'une fille de 29 ans.
Oui.
Qui se défonce au crack depuis 6-7 ans.
D'accord.
Fort. Je ne sais pas si tu dois commencer par la chronologie ou par...
J'ai besoin, si vous voulez que je vous donne quelques conseils, il faudrait que j'ai un minimum de, vous voyez, de détails, et bien évidemment, comment elle est rentrée en contact avec le crack qui... Si quelqu'un l'a fait plonger dans tout ça, j'ai besoin de connaître un petit peu le parcours de votre fille.
Alors bon, elle a toujours été en échec scolaire.
Oui.
Elle a quitté l'école à 16 ans. Ensuite, elle a voulu faire du théâtre, on l'a mis dans un cours, mais au bout de 2 mois, ça n'allait plus. Ensuite, elle a voulu faire de la guitare, on l'a incité, donné des cours, etc. Ça ne marchait plus non plus. Après, elle a voulu chanter. Bon, elle se fixait sur rien. Elle a voulu passer des concours de théâtre et elle voulait être actrice. Mais c'était, enfin, à mon avis, c'était un fantasme. Elle s'est identifiée complètement à Patti Smith à un moment. Je lui ressemble, on m'a dit que je lui ressemblais, je l'ai croisée dans une expo, elle m'a regardée, je suis sûre qu'il y a quelque chose entre nous, enfin voilà. Et ensuite, donc, je veux être actrice, un jour quelqu'un va se rendre compte que c'est moi qui veux, c'est moi qui veux, voilà.
Oui.
Donc...
Un ego, donc... Un ego assez surdimensionné.
Ou sous-dimensionné. Parce qu'en même temps, c'était, je crois, par peur de... Elle n'avait connu que des échecs et elle se fantasmait surdimensionnée, si je peux me permettre.
Oui, oui, mais lorsque je parle d'un ego surdimensionné, sûrement un ego blessé et rabaissé, finalement, puisqu'elle elle a enchaîné les échecs, hein, votre fille.
Voilà.
Ouais.
Et à 18 ans, elle a décidé d'aller à Los Angeles. Parce que c'est là qu'elle se révélerait.
Oui.
Alors, elle habitait Hollywood Boulevard, enfin, tout, quoi. C'est génial, il y a, je sais plus qui, je sais plus quel acteur, il m'a demandé du feu dans la rue. Tu te rends compte, c'est comme ça que ça se passera, etc. Et puis très vite, elle a rencontré un mec qui avait le double de son âge et qui l'a initié, voilà, au crack.
Oui.
Une fois, deux fois, enfin voilà, elle s'est très vite s'y mettre, et avec en plus une relation très dépendante et très fusionnelle, quoi.
Est-ce qu'elle avait, dans son adolescence, déjà touché à la drogue ?
Ah oui.
Oui.
Bon, ben on commence par le shit, et puis ensuite, elle a acheté sur Internet des trucs chimiques aux Pays-Bas, jusqu'à un jour, elle était dans l'appartement, me parlant en anglais, en me disant, mais ils sont partis où les gens qui étaient là ? Mais si, les deux messieurs, là, enfin bon, elle était complètement dans le potage, j'ai appelé les pompiers, parce que je ne savais pas si elle était... passer de l'autre côté, enfin, mentalement.
Oui.
Et ils l'ont emmenée, ils l'ont un peu calmée, puis voilà, elle est ressortie après. Enfin, calmée, je veux dire, des sédatifs ou je sais pas quoi. Donc voilà, oui, la progression traditionnelle, quoi.
Mm-hmm.
Enfin, traditionnelle.
Oui, assez classique, en tout cas. Ouais.
Classique, c'est ça. Ouais.
Vous étiez encore avec votre mari, le papa, non ?
Non, nous avons divorcé quand elle avait à peine 2 ans.
Oui.
Et ça a été très difficile, d'autant plus que nous l'avions adoptée quand elle avait 3 mois.
D'accord.
Et pendant ces 2 petites années, c'était très tendu entre mon mari et moi. Et puis il est parti. d'ailleurs. Et il a fait des bébés naturels. Enfin, naturels.
Oui, enfin, il a refait sa vie, il a eu des enfants.
Voilà.
Et vous lui avez dit assez tôt, en fait, qu'elle était une enfant adoptée ?
Ah ben, tout de suite.
Tout de suite, d'accord.
Okay. Elle a toujours su par... comme ça, enfin, je ne sais pas comment on lui dit, mais au biberon.
Oui, d'accord.
C'est la plus belle fille de ma vie. Qu'est-ce que je suis contente de t'avoir rencontrée. Enfin, voilà. Et ce mari, cet ex-mari a eu deux enfants qui étaient merveilleuses, magnifiques, très douées. Clara, quand elle faisait du cheval, elle se faisait des entorses. Mais pourquoi tu te fais des entorses? Tes sœurs, tu vois bien qu'elles montent très bien, elles sautent des obstacles, elles sont devenues championnes, etc. Et elle a toujours été le vilain petit canard.
Oui, oui, je vois parfaitement. Et son père lui faisait ressentir cette différence
Très fort.
Ouais.
Avec l'appui de sa nouvelle femme, qui a toujours reproché en fait à cet ex-mari d'être venu avec un fardeau, quoi.
Oui, donc ce que votre fille a dû particulièrement mal vivre.
Bah et comment ?
Oui, parce que oui, on peut comprendre. On peut comprendre qu'étant adopté, on est déjà, quand on est en âge de réfléchir, de commencer à réfléchir sur ses origines, même si on a beaucoup d'amour pour ses parents adoptants. Il y a quelque chose qui peut être de cet ordre, en tout cas. Alors, avec un père qui vous met devant le nez l'échec, en fait, hein, et puis des sœurs adoptives, pour le coup, qui sont, elles... resplendissante, on peut de toute façon y trouver une origine dans cette quête de devenir quelqu'un, parce que tout ce que vous me décrivez, Gabriel, c'est tout de même un ego surdimensionné, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est tout de même une quête de briller aux yeux du monde et sûrement aux yeux de vous, parents. C'est une réflexion que vous avez déjà eue, ça ?
Ben. On a toujours essayé de lui donner accès à ce qu'elle envisageait,
voulait, ouais.
La musique, le chant, le théâtre.
Mais je n'entends pas par là que vous avez mal fait les choses. Hein. Je pense que cet enfant, déjà très tôt, a eu une blessure et qu'elle pensait pouvoir combler par le fait de réussir, vous voyez, de devenir quelqu'un, voilà. Puis on sait que quand on est plus jeune, on pense que voilà, le fait de devenir quelqu'un de connu, eh bien, va faire de nous des êtres extraordinaires, heureux, vous voyez, baignant dans le bonheur, ayant de l'argent, ne manquant de rien. Et donc voilà, c'est on peut y voir en tout cas une quête de...
Le mot reconnu renvoie à sa naissance où elle n'a pas été reconnue, puisqu'elle est née sous X.
Ouais. Mmh. Donc, elle part là-bas à Los Angeles avec ce rêve de devenir une actrice.
Oui.
Et puis...
Très vite, elle passe au crack.
Elle passe au crack, ouais.
Donc, je pense qu'elle n'avait pas expérimenté avant. Elle avait pris surtout des trucs chimiques, ecstasy, tout ça. Mais pas...
Pour que tous ceux qui nous écoutent, Gabrielle,
oui.
Comprennent bien
oui,
aussi
oui.
Et puis prennent le problème... dans le bon sens, parce que,
oui.
Vous savez, moi je préfère toujours expliquer les choses lorsqu'il s'agit d'addiction, parce que nous sommes dans un pays où on a une certaine tolérance pour l'addiction à l'alcool, puisque nous sommes un pays où producteur de vin, le vin fait partie de notre culture, or l'alcool est une addiction extrêmement grave qui aujourd'hui est responsable de beaucoup de morts, hein, avec... des fois qui, au fur et à mesure, se détériorent. Et c'est assez curieux de voir combien, dès qu'on parle de drogue, il y a une sorte de regard, de distance qui s'installe, comme si les personnes qui se droguaient étaient des gens malicieux, vous voyez, des gens vicieux même. Or, la drogue, qu'elle soit... Alors, on ne va pas parler de haschich, mais... bien que ça soit une addiction, mais en tout cas les drogues dures sont exactement les mêmes en termes d'impact sur la personne, sur la santé. Et c'est le même chemin, exactement. C'est une fuite. C'est une fuite. Prendre de la drogue, c'est vouloir être quelqu'un d'autre. C'est vouloir... C'est surtout ne pas vouloir affronter la réalité sans une béquille. Et toutes ces précisions pour dire à tous ceux qui nous écoutent que le crack est sans doute la pire des drogues, en tout cas pour une question d'addiction. On devient accro, comme on dit, au bout de 2 ou 3 prises. Cette drogue est tellement puissante et tellement bonne, hein, l'effet qu'elle donne... Il y a une très bonne série en ce moment sur Canal+, qui s'appelle Snowfall, qui raconte l'histoire et l'avènement du crack aux États-Unis. Et je trouve que c'est très bien expliqué. Et on y voit de jeunes blacks américains tomber accros en 2-3 prises, parce que cette drogue est un mélange de cocaïne et de kérosène, mais... Il y a un produit qu'on rajoute extrêmement chimique qui transforme la cocaïne en cailloux et qui fait que voilà, c'est d'une puissance inimaginable. Et donc, que voilà, ça a été un vrai fléau aux États-Unis, ça l'est toujours. Et que votre fille a dû tomber très très vite accro à cette drogue. Et il est très très compliqué de s'en sortir. On va marquer une légère pause et on va continuer à évoquer votre fille. Et puis on va évoquer aussi vous, hein, Gabriel, parce que je suppose que ça a dû vous transformer la vie, tout ça. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et vous êtes toujours sur la libre antenne. Et nous écoutons ce soir le témoignage de Gabriel. Gabriel, donc, cette jeune femme, lorsqu'elle part aux États-Unis, elle y reste combien de temps et quand revient-elle ?
Elle y reste un an à peu près.
Oui.
Elle tombe enceinte au bout de 3 mois. Là, je lui ai dit qu'il devrait rentrer pour bien réfléchir à ce que tu veux faire.
Oui.
Je lui envoie des billets d'avion 3 fois. Et à chaque fois, elle ne prend pas l'avion. Et, soi-disant, elle rate le bus. Soi-disant, il était annulé. Soi-disant, enfin, voilà. Et elle me dit, mais tu sais, il me cogne. Il m'a volé mon passeport. Voilà.
Vous êtes allée la chercher au final ou elle a fini par rentrer ?
Non, elle a continué et ensuite ils sont allés au Mexique dans sur une côte où il y a beaucoup d'Américains qui viennent un peu se droguer, un peu consommer des femmes, un peu tout ça un peu en toute impunité puisque c'est du tourisme payant, quoi, enfin, qui rapporte de l'argent. Et c'était au moment de la jeune femme qui s'appelait Florence.
Oui, Florence Cazet.
Voilà.
Donc elle vit combien de temps au Mexique à ce moment-là ?
Quelques mois, 3 mois. Et j'étais très... Vraiment, là, j'avais trop peur qu'elle aille qu'elle se fasse prendre par la police.
Oui.
Elle y reste encore 10 ans. Et j'appelle le consulat en disant, voilà... qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et elle m'a dit, ben, faites tout pour la ramener, parce que si elle est arrêtée, elle va y rester des années. Vous allez payer des avocats pendant des années, vous allez perdre votre chemise, votre maison, tout. Et c'est pareil, je lui envoie un billet, elle ne vient pas, j'envoie un autre billet. Et quelqu'un du consulat me dit, bah, écoutez, je vais aller la chercher, je vais la mettre à l'avion. Et, enfin, je me perds peut-être, là.
Non, vous êtes, ça va très
et
bien.
La mettre à l'avion, et ce qu'elle fait, alors, passe la police, la douane, et la jeune femme est obligée de rester de l'autre côté. Donc, Clara, la fille est en passage, comment ça s'appelle ? où on attend de l'autre côté.
Oui, oui, en zone internationale.
On appelle le vol pour Paris, nanana, nanana. Et il en manquait une. Allô, allô, il manque une personne. Dépêchez-vous de venir, dépêchez-vous. Et en fait, la personne du consulat me dit, mais l'avion n'est pas parti, je vous dirai quand il partait. Il partait pas. Ils ont dû débarquer tous les passagers, tous les bagages, puisque quand quelqu'un ne se présente pas, ça, il peut avoir mis quelque chose d'explosif dans le...
Ouais. Alors donc du coup, elle a fini par prendre cet avion ?
Non, elle s'est planquée aux toilettes.
D'accord.
Jusqu'à ce que l'avion, 4 heures après, parte, après avoir vidé l'avion des bagages et des passagers. Mmh.
D'accord. Oui, on voit qu'elle est... Elle est totalement...
Dedans.
Oui, oui, complètement. Parce que pour faire une chose pareille, on s'aperçoit que, voilà, elle ne se rend pas compte de la gravité. On peut être condamné hein, pour ça, pour le coup.
Bien sûr. Mmh. Oui.
Comment est-ce qu'elle est rentrée au final du Mexique ?
Alors, elle retourne chez le mec. Il a continué à droguer avec beaucoup de violence, d'ailleurs. Parce que je crois que ça rend assez violent. Elle était toujours enceinte, hein, de 4 mois, 5 mois, beaucoup de... Elle se faisait battre, malheureuse. Elle m'envoyait des... Elle communiquait par Internet. Et puis, Dieu merci, il a fallu qu'ils rentrent aux États-Unis. Donc, ils sont retournés là-bas. Et... La mère du mec lui a dit « Mais t'es enceinte, moi je veux pas de toi chez moi, ici il n'y a pas de sécu, je vais te dénoncer à l'immigration si tu ne te rends pas. » Donc elle est rentrée. Elle était enceinte de 5 mois, elle n'avait plus de choix là, à ce moment-là.
Bon, au moins elle est rentrée. Est rentrée enceinte de 5 mois à peu près, c'est ça?
Elle a eu une grossesse... nier. Elle grossissait pas, elle en était ravie.
Et elle continue à se droguer en France ?
Ben, beaucoup moins, ou je pense pas, non. C'est pareil de vous dire.
Bon, en tout cas, elle a accouché de cet enfant ?
Elle a accouché d'un tout petit bébé.
Oui. Une petite fille ?
Non, un petit garçon.
Un petit garçon, d'accord.
Mais elle se promenait dans l'hôpital en disant « Vous avez vu, j'ai pas de ventre. » Et moi, j'étais quand même rassurée de voir que le bébé avait pas 36 doigts, 4 têtes et...
Ouais. Il était
normal.
Et il était ça allait, ce bébé ?
Oui. D'accord. Et maintenant, c'est un très joli petit garçon de 6 ans, intelligent, mais qui souffre de l'absence de sa mère.
D'accord. Donc, en fait...
Son grand-père, mon ex-mari,
oui.
À la campagne, il y est bien.
D'accord.
Il exprime que sa mère vient très très peu et qu'il voudrait bien l'avoir plus souvent.
Bien sûr. Donc, j'en déduis que votre fille... Une fois que cet enfant est né, est reparti à ses prises de drogue ?
Elle l'a, bien sûr. Mais en fait, d'ailleurs, elle me l'a dit elle-même. Elle l'a dit, je suis une mère administrative. Elle l'a quasiment abandonné. C'est-à-dire qu'elle a répété un peu sa naissance. Enfin, moi, je l'interprète comme ça.
Mmh.
Et d'ailleurs, elle, quand il vient à Paris et que je l'ai, je lui dis, il ira chez toi, il ira chez moi. Alors quand elle l'a, elle me dit, maman, on peut venir déjeuner ? Alors, je suis ravie. Et puis, j'ai une course à faire. Puis elle ne revient pas. Alors, en fait, c'est pour moi que j'appelle.
Oui.
Ça, c'est le background pour que vous sachiez un peu. Moi, je crève de la voir se droguer consciencieusement, y compris de se prostituer quand elle n'a pas de quoi s'acheter une dose. Elle a un appart que nous... Et puis elle est le RSA pour survivre. Elle va fréquenter des lieux qui sont très connus. On voit des reportages tout le temps. Ça s'appelle La Colline, c'est près de la Porte de la Chapelle. Où
ouais, on voit parfaitement, bien évidemment.
Un peu la Cour des Miracles,
ouais,
où on consomme beaucoup.
Mm-hmm.
Où il y a tout comme tu veux.
C'est assez incroyable d'ailleurs de voir aujourd'hui...
que c'est pas du tout
aux limites de Paris comme ça.
Je l'espère.
Oui, oui, oui. Alors, il y a sûrement une explication à tout ça. Hein. Est-ce que il y a une volonté justement de laisser faire parce que au moins on peut y avoir un contrôle sanitaire de toutes ces personnes là, parce que je suppose que je sais que Médecins du Monde est là-bas. J'ai vu ça dans un
reportage. Oui, mais ils y sont pas en permanence. Hein.
Mmh.
Incursion.
Alors, vous savez quoi, Gabriel, on va parler de vous,
oui.
Et on va prendre notre temps là dans la troisième partie de cette émission parce que
moi,
le flash arrive. Donc vous restez avec moi et puis on se retrouve dans quelques instants, d'accord ?
D'accord,
à tout de suite. Pour ce soir, pour l'instant, nous sommes avec Gabriel qui nous parle de son enfant, de sa fille. Cette jeune femme, Gabrielle, on sent que la drogue l'a complètement prise. On sent que derrière, il y a quelque chose qui depuis longtemps, ressemble à une blessure, en tout cas, qui fait que cette jeune femme a continué de se chercher en même temps qu'elle se perdait, j'ai l'impression. Mais il y a vous. Et vous voulez nous parler de vous. Vous me disiez,
oui.
je crève. Alors, parlez-moi de vous.
Ben moi, j'ai voulu au début tout faire.
Oui.
Or, maintenant, je me rends compte il faut que j'admette, c'est pas encore tout à fait le cas, qu'il n'y a rien à faire. À part être là, remplir le frigo quand elle crève de faim, et être là si elle veut m'appeler à toute heure du jour ou de la nuit. Mais il n'y a rien à faire tant qu'elle n'aura pas le désir, elle, de faire quoi que ce soit. Donc ça, je commence à le comprendre, l'admettre, c'est plus difficile. Et je me suis d'abord complètement isolée, désocialisée. Les amis que je pouvais voir avant me cassent les pieds avec leurs petits bobos. Oh là là, mon fils, il a eu que bien à son bac, etc. Soit je parle de... parce que j'en ai besoin et je les ennuie, finalement, ils ont envie de parler du dernier film. Soit j'en parle pas et je suis pas bien. Donc j'ai fini par ne plus sortir, plus aller au cinéma, plus... Et
être totalement omnubilé par cette situation.
Et pour reprendre un mot, accro à elle.
Mmh.
C'est presque une addiction à sa situation, à elle. Et je n'arrive pas à voir un chemin parallèle, si vous voulez. C'est-à-dire à vivre ma vie avec elle qui vit sa vie et que nous vivions en parallèle.
Ouais, presque. Ouais. Vous n'arrivez pas, en fait... lorsque vous vous dites... lorsque vous réalisez tout ça, parce que je suppose que ce que vous me formulez ce soir... Vous l'avez déjà soit formulé à quelqu'un d'autre, soit vous l'êtes formulé aussi à vous. Le fait de ne pas décrocher de la vie de votre enfant, parce que voilà, cet amour de mère, vous l'avez, il est intact, on le sent aujourd'hui encore. Parce que enfant adopté ou enfant naturel, on reste à vie les parents de nos enfants. On sent que chez vous, c'est quelque chose de parfaitement installé, ça. C'est ce pourquoi on va aller un petit peu plus loin, vous allez un peu plus me parler, parce que pour l'instant, il m'est difficile de vous conseiller, parce que je sens qu'on en est là, on en est à un amour inconditionnel pour cet enfant, et surtout, voilà, je me demandais si vous aviez une sorte de culpabilité lorsque vous évoquez ou que vous formulez
complètement
le fait que vous il faut que vous décrochiez, justement, que vous la quittiez, que vous ne vous occupiez plus d'elle pour vous sauver vous. Est-ce qu'il y a une grande culpabilité qui se dégage de ce sentiment-là, de cette réflexion-là ?
Je ne peux pas abandonner une enfant qui a été abandonnée.
Ouais. Donc on est au cœur de du problème.
D'autre part, c'est pas quand le navire prend l'eau que. Enfin, c'est pas au pire de la situation qu'on prend ça légèrement. Mmh. Ça, c'est parce que je culpabilise, quoi.
Et j'ai envie de vous dire que si vous continuez comme ça, Gabrielle, vous allez de plus en plus vous isoler. Mmh. Vous allez de plus en plus descendre, vous aussi. Parce que, quel âge a-t-elle, votre fille, aujourd'hui ?
29 ans.
Et nous sommes d'accord qu'elle n'a jamais, parlé de décrocher, de se soigner, d'arrêter
elle
cela.
Elle a eu des velléités, elle a vu un addictologue qui était génial, mais au bout de 2 mois, elle ne voulait plus y aller. Elle a vu un psychologue, au bout de 2 mois, elle ne voulait plus y aller. Son médecin généraliste, voilà. Elle veut même, je lui ai dit, va chez le coiffeur, rends-toi... Fais-toi plaisir.
Je pense que ce type de détail lui échappe complètement aujourd'hui.
Complètement.
Si vous me dites qu'elle elle va tous les jours à la colline, en fait. Elle y passe son temps, non ?
Oui, ou on la sert à domicile.
Oui. Mais en tout cas, bon, elle est en ce moment en pleine addiction et elle n'est pas partie pour décrocher pour l'instant.
Voilà. Mmh.
Alors, vous, comme je vous disais, vous allez vous user. Vous allez vous user dans cette situation. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est que le jour où vous serez complètement usé, brisé, bien, vous ne serez plus là, en tout cas en capacité, de l'aider. Vous voyez ? Et dans cette perspective-là, il faut que vous preniez des décisions. Alors, des décisions qui vont dans un sens, c'est déjà de la faire percuter. Parce que pour l'instant, vous voyez, votre enfant, elle sait que maman est là. Elle sait que quand elle a brûlé son RSA, qu'elle a plus d'argent, de temps en temps, maman va lui donner 10, 20 euros.
Et non, jamais d'argent.
Vous ne donnez jamais d'argent. Bon, ça,
non.
C'est très bien.
Parce que jusqu'à... Enfin, ça fait 6 mois, 9 mois que je ne donne même pas 10 euros. Je lui achète ses paquets de clopes.
Oui.
Et je lui remplis son frigo.
D'accord.
Parce que je m'en suis rendu compte. Voilà, l'argent, c'est tout de suite pour la drogue.
Oui, oui, oui. D'accord.
Je ne donne plus d'argent.
D'accord. Bon, ça, c'est très bien de ne plus donner d'argent.
Ça, voilà. Je ne donne que des... Voilà.
Après... Je ne me risquerai pas à vous donner le moindre conseil quant à... Non, non, oui, mais à vous, je vais vous donner des conseils, mais par rapport à elle, c'est-à-dire, il y a bien évidemment... moi, je crois beaucoup aux narcotiques anonymes aujourd'hui. Lorsqu'on est décidé à aller au moins essayer d'écouter les autres et essayer de partager cette souffrance qu'on a et cette souffrance qui peut nous pousser à boire ou à prendre n'importe quelle drogue pour fuir la réalité, pour voilà, mais tant qu'elle ne sera pas décidée à faire ce chemin-là, il n'y aura rien à faire pour elle, malheureusement, parce que seul celui qui est dedans, il n'y a que lui qui puisse s'en sortir, en tout cas avec l'aide des autres, parce que c'est pareil, on ne s'en sort jamais tout seul.
Oui.
Jamais tout seul, jamais.
Oui. Je commence à comprendre que je suis la dernière personne à pouvoir l'aider.
Oui, alors, vous êtes la dernière personne à pouvoir l'aider, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que vous me dites ce soir que vous en crevez, que vous êtes en train de vous isoler, que vous êtes addict à cette situation, que les gens vous ennuient. J'entends tout ça, que les gens puissent vous ennuyer, mais les gens, voilà, vous savez, les gens pensent à leur vie, à leurs petits problèmes, et leurs petits problèmes, à eux, vous paraissent complètement dérisoires, bien évidemment, mais on ne peut pas les incriminer, ces gens, d'avoir leur vie, leurs petits problèmes, et des enfants qui poussent tant bien que mal, et qui n'ont pas ce type de problématiques. Là, vous, il faut que vous vous fassiez aider, vous, parce que vous avez autour de vous au moins une main tendue, une oreille, une épaule.
J'ai au moins une amie.
Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette amie, dites-moi.
De prendre un peu de distance, de prendre un peu de large, le large de m'activer sur autre chose, de venir en vacances chez elle. Mais bon, ça marche pas. De la même manière que le désir chez ma fille ne doit venir que d'elle, de la même manière pour moi, le désir de venir que de moi. Je suis allée dans des groupes de parole de parents dont les enfants sont toxicaux, et puis...
Ça ne vous a pas aidé, ça ?
Non.
Non ?
J'ai l'impression d'être... Enfin, c'est-à-dire que ils sont addicts, mais c'est aux jeux vidéo...
Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir.
Et moi, je me sentais... Est-ce que je fous là ?
Oui, oui. Non, mais ça n'a rien à voir, pour le coup. Aucune critique envers ces groupes de parole. Mais vous êtes tout à fait dans un autre...
Vous connaissez d'autres endroits ?
Non, je ne connais pas d'autres endroits pour les parents, mais on va chercher hors antenne pour vous, parce que je pense que s'il y a des groupes de parole pour les enfants qui sont accros à la vidéo ou au jeu, il y a obligatoirement des groupes de parole pour les parents. Je vous dis ça, j'en suis certain. Il y a des groupes de parole pour les enfants, pour les parents d'enfants toxicomanes. C'est certain. Et on vous donnera un numéro de téléphone où vous pourrez vous renseigner, notamment auprès des Narcotiques Anonymes, parce que je ne
savais
pas
que ça existait, là, ça.
Ben si. Mais alors, les Narcotiques Anonymes existent bien évidemment pour les gens qui veulent s'en sortir.
C'est pour les gens, c'est pas pour les parents.
Mais eux sauront vous. D'accord. Dans la philosophie des Narcotiques Anonymes, je suis certain qu'on a pensé aussi aux proches, parce que les proches faisant partie très très souvent du processus de guérison et d'abstinence. Je suis certain qu'il y a des groupes de parole pour les parents, et Natacha ou Florian vous donneront un numéro auquel appeler, où on répond le soir, le matin très tôt et jusqu'au soir, pour vous indiquer des groupes de parole. Ça, dans un premier temps, je pense que c'est ultra nécessaire que vous rendiez dans ce type de...
Là, j'étais pas au bon groupe.
Non, vous n'étiez pas au bon groupe.
Non, mais c'était... Comment vous dire ? C'était comme une grippe à côté d'un cancer.
Oui, je comprends. Gabriel, on va se quitter quelques instants. Vous restez en ligne avec moi, et on va vous donner en antenne après, à la fin de votre témoignage, le numéro. On se retrouve tout de suite.
D'accord, merci.
La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
Et nous sommes toujours avec Gabriel. Gabriel, on évoquait donc ces groupes de parole. Vous appellerez dès que vous le voudrez, mais dès demain, au numéro qu'on va vous donner, parce que dans un premier temps, il est impératif que vous puissiez ne plus vous sentir seul dans ce combat, que vous puissiez identifier d'autres parents qui traversent la même chose que vous, et surtout d'autres parents qui auront déjà fait du chemin, vous voyez, qui seront passés par les étapes que vous traversez en ce moment, et qui vous aideront à temporiser, je dirais, parce que Il n'est pas question de lâcher votre enfant, il n'est pas question de lui lâcher la main et de l'abandonner. Mais il est question d'adopter une certaine posture, d'avoir une certaine distance par moment avec cet enfant la faire percuter sur le fait que à un moment, si vous n'êtes plus là, ça va vraiment être l'enfer, cette histoire. Et on peut avoir de bonnes surprises dans ce type de positionnement, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette jeune femme, elle a 29 ans, hein, vous m'avez dit. Eh bien, elle sait que vous êtes là. S'il y a un coup dur, elle sait que vous êtes là. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire que le matin, vous savez, quand elle se lève, elle ne pense pas à vous, elle pense à sa drogue. Et que pour que tout ça change, il faut qu'à un moment, elle... Sans doute, elle aille au fond, mais que vous puissiez faire le chemin de votre côté pour parer à ça. Et peut-être, vous savez, peut-être avec ses autres parents, vous allez apprendre à lui parler, à réagir. Et déjà, vous serez moins seule et vous serez plus forte. Parce que lorsqu'on évoque tout ça en groupe, eh bien, souvent, déjà, il y a ce sentiment de se sentir moins seul. Hein, parce que lorsqu'on traverse ce que vous traversez, on a l'impression d'être maudit et on a l'impression d'être seul au monde. Or, il y a beaucoup de parents qui traversent ce que vous traversez. Et comme je vous le disais, certains parents ont déjà fait depuis des mois, voire des années, le chemin. Un chemin où ils ont pu apprendre cette distance, apprendre à parler, apprendre à installer, à avoir une posture par rapport à pardonnez-moi, à cette problématique. Et surtout, vous allez apprendre à relever la tête et à parler avec les autres. Parce que aujourd'hui...
Parce que moi, je veux vivre.
Mais oui, oui, mais...
15, 20 ans à revivre encore. Je veux pas... Sinon, je me flingue tout de suite.
Non, non, mais...
Il n'y a rien qui m'attend. Donc, moi, je veux vivre. Donc,
ouais, ouais.
Pour ça, il faut que je me...
Il faut que vous pensiez à vous.
J'en ai marre de cette vie, tiens.
Oui, oui, oui. Mais
inefficace.
Mm-hmm. Il faut que vous pensiez à vous. Ça, c'est clair. Mais si vous appelez ce soir, c'est déjà qu'il y a un début de ça. Et puis, je vous dis, il ne faut pas que vous restiez seul à affronter tout ça. Dans ces groupes de parole, là, vous allez échanger, vous allez partager, vous allez surtout avoir ce sentiment de ne plus être seul. Là, c'est fini de s'adresser à des parents qui vous parlent de petits bobos et de choses qui vous semblent complètement anodines. Là, vous allez parler avec des parents qui sont dans la même peine que vous, qui sont dans le même combat que vous, qui sont dans le dur. Vous voyez ? Et ça,
Moi, j'ai envie d'aller au cinéma, de lire des livres, d'avoir envie.
Oui, 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 je comprends. Mais vous savez, en fait, il y a le groupe de parole donc, qui dure une heure et demie. Et généralement, les personnes qui participent à ces groupes de parole font des choses ensemble. On ne se quitte jamais tout de suite. On va boire un verre et puis voilà, on peut parler de livres, on échange de... Voilà, on...
Le resto, enfin...
Oui, mais c'est exactement ça. On va au resto après, on partage, on vit, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que vous vous recréiez un cercle, en tout cas ce nouveau cercle-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous laissiez tomber l'ancien cercle. Hein. Mais voilà, c'est difficile. J'ai du mal à vous dire... qu'il faut que vous pensiez à vous et que vous vous éloigniez de cet enfant, parce que je sais que c'est tout ce dont vous n'avez pas envie, mais malheureusement, il va falloir que vous appreniez à prendre une distance, et ça, vous n'allez pas l'apprendre toute seule. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes addict de cette situation, et bien comme on soigne une addiction, vous allez devoir vous aussi vous désintoxiquer de cette situation, parce qu'elle est presque devenue... Elle est presque devenue une routine de votre vie, cette douleur.
Mais, vous voyez, j'exprimerais ça comme... J'ai pas envie de la lâcher, mais j'ai envie de me retrouver, moi.
Oui. Mais pour vous retrouver, vous, il faut que vous vous reflétiez dans le regard des autres, dans les réactions des autres. Or, aujourd'hui, visiblement, dans votre cercle d'amis, vous êtes seule à vivre ça. Et donc, la seule manière d'échanger aujourd'hui, c'est d'échanger avec des personnes qui connaissent ce problème ou qui l'ont connu, parce que vous verrez que dans ces groupes de parole, en fait, il y a aussi des parents, comme des ex-toxicomanes, qui viennent aider. Il y a une tradition dans ces paroles, en tout cas chez les narcotiques anonymes, il y a une tradition de... Même ceux qui sont sortis, eh bien, aident les autres et continuent de venir donner leur expérience. Et je vous assure, pour avoir énormément échangé avec des personnes qui se sont sauvées grâce à ces groupes de parole, mais vraiment sauvées, qui étaient très, très, très loin. Très loin. Je vous certifie qu'on y puise énormément d'énergie, de connaissance de l'autre. On devient un peu moins sévère avec soi-même. On apprend à accepter de souffrir. On apprend aussi à prendre cette distance dont je vous parle, parce que cette distance, elle est synonyme de protection aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut que vous protégiez. Et j'espère que vous allez arriver à faire sentir à votre fille que vous prenez une certaine distance à un moment. Alors pour l'instant, je sens que c'est très compliqué pour vous, ça, cette notion-là. Mais ça, ce sont les autres qui vont vous y aider, qui vont vous apprendre. Parce que c'est le seul salut, c'est votre salut et le salut, sûrement le salut de cette jeune femme. Les années qui sont passées là, où elle s'est abîmée, bon, ce sont ces années perdues. Mais vous savez, elle a 29 ans, elle est encore jeune. Et elle a cette chance de pouvoir se remettre assez rapidement de tout ce qu'elle a fait.
Là. Vous croyez ?
Mais j'en suis sûr. On est quand même des sacrés. Ouais, mais on est des sacrées belles machines quand même. Je vous jure que je connais tout un tas de personnes qui sont allées très loin et qui aujourd'hui sont. Si vous saviez le nombre de personnes qui occupent des postes assez incroyables dans notre société, qui sont journalistes, qui sont publicitaires, qui sont politiques maintenant, enfin en tout cas qui mènent, enfin qui ont un vrai rôle dans notre société, et voilà, qui se sont remis au sport, qui se sont mis à re-bien manger, et nous sommes quand même des machines incroyablement résistantes.
Et ils sont allés loin là-dedans.
Loin, comme votre fille est allée loin. Donc il faut que vous arrêtiez aussi de vous inquiéter, parce que Ça ne sert à rien.
Oui.
Alors je sais que c'est facile à dire ça, hein, mais on va vous donner hors antenne déjà cette première étape. Vous ferez ce numéro, hein, je compte sur vous pour le faire. De toute façon, c'est votre salut. Et je compte sur vous pour me tenir au courant de l'évolution des choses, parce que dès demain, peut-être vous pouvez aller dans une réunion de parents. En tout cas, ce week-end, il est certain qu'il y en a. Et vous verrez, j'aimerais que vous me rappeliez pour me dire comment vous avez senti tout ça.
Oui, servir aussi à d'autres parents.
Ouais. Et puis j'ai envie de vous entendre dans 3 semaines, 4 semaines, peut-être me dire que finalement là, ça vous a fait du bien, que vous avez avancé, en tout cas que vous sentez que vous êtes dans un processus.
Qu'est-ce que ce serait bien.
Ouais, mais c'est possible, je vous assure que c'est possible, Gabriel. Je vous l'assure. D'accord. Essayez de passer une bonne nuit, d'accord.
Merci.
Je vous embrasse bien fort et puis...
Je vais directement...
Vous restez en ligne et Natacha va vous reprendre.
D'accord.
En ligne.
Okay. Merci.
Au revoir, bonne nuit. Au revoir.